Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Les littéraires, secrets de la réussite. Voilà, c'est le thème de notre émission. Mais à première vue, on pourrait se dire, ici même dans les murs de l'Académie, pour parler des littéraires, eh bien, évidemment, il faut faire appel à ceux qui ont une formation en littérature, à ceux qui s'y expriment, à des écrivains, à des académiciens. Mais pense-t-on seulement à faire appel aussi à des hommes d'entreprise, à des hommes qui sont impliqués dans la vie économique et qui, en quelque sorte, ont le retour d'expérience de ceux qui ont reçu une formation littéraire et qui ont aussi le discernement pour savoir ce qu'ils valent exactement sur le marché du travail, ce qu'ils valent aussi, bien sûr, dans la vie professionnelle et dans la vie sociale tout court, tout étant imbriqué. Alors, je reçois Daniel Jouve. Bonjour.
Bonjour.
Daniel Jouve, pour vous situer, on peut dire que vous êtes l'un des chasseurs de tête les plus renommés de la place de Paris. C'est un titre qui vous irait assez bien.
Si on veut, oui.
Même si vous êtes extrêmement modeste.
Un des plus anciens, en tout cas.
Un des plus anciens. Le cabinet, votre cabinet est sur une place célèbre, place Vendôme. Pour vous situer un petit peu, vous êtes né en 1938, vous êtes auvergnat d'origine. Sixième enfant d'une famille nombreuse, vous suivez des études secondaires d'excellence, du latin, du grec, parce que selon vous, cela rend intelligent, vous nous direz pourquoi. Premier prix de mathématiques, premier prix de français au lycée Louis le Grand, licence de droit, Sciences Po, MBA à Harvard. Puis, vous êtes devenu conseiller en recrutement de cadres dirigeants, spécialiste du gouvernement d'entreprise, que l'on résume sous la formule chasseur de tête. Bon. Alors déjà, premier prix mathématiques, premier prix littéraire, ça veut dire que vous résolvez, de manière quasi définitive, le vieil antagonisme entre les littéraires et les matheux.
Oui, d'ailleurs... Je vous ai dit que j'avais eu un premier prix de mathématiques parce que souvent en France, on pense que les gens qui sont littéraires ou parlent bien du français comme belle langue, c'est parce qu'ils sont pas bons en maths. Et la plupart des mères de famille rêvent que leur fils soit polytechnicien, ce qui est très bien. D'ailleurs, on m'a dit que ceux qui rentraient à Polytechnique, c'est ceux qui avaient, en plus d'une bonne note de mathématiques, une bonne note de français.
C'est le critère discriminant, paraît-il.
Pour passer devant les autres. Mmh. Et puis, je dois dire que, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai des diplômes divers, mais la seule chose dont je suis fier, c'est d'avoir été premier prix de français au lycée Louis le Grand.
Et premier prix de mathématiques aussi, vous ?
Ouais, mais ça,
non.
C'est juste pour montrer que je ne suis pas nul en maths, mais ça me...
Alors pourquoi ? Faites-nous comprendre la différence.
Parce que je trouve que le raisonnement mathématique dessèche. Alors que la littérature, le suivi de la pensée des gens qui... ont écrit pour nous, ça m'enrichit à chaque fois, donc j'apprécie beaucoup.
Est-ce que c'était un jugement que vous aviez dès le départ, parce que vous aimiez les lettres, ou bien est-ce un jugement que vous avez acquis à l'aune de votre expérience professionnelle, en vous disant, ah bah oui, finalement, les littéraires, voilà ce qu'ils valent, et ce n'est pas si mal que ça.
Oh ben je l'ai appris après, parce qu'en fait, les études, vous savez, on fait ce que vous disent vos parents, hein. Donc... J'ai fait du latin et du grec, et je suis content de l'avoir fait. D'ailleurs, quand j'étais élève au lycée Louis le Grand, il y avait une grande révolution, on avait nommé un psychologue scolaire. Et après m'avoir testé, il m'a dit que j'étais fait pour ça, et que je devrais en plus apprendre l'hébreu. Mais là...
Ce que vous avez fait, non ?
Non, non, je voulais pas m'enterrer dans les bibliothèques, je voulais quand même aller dans la vie active.
Donc, latin, grec, immédiatement, qu'est-ce que ça vous a donné comme atout ?
Ah ben,
vous êtes allé loin, je crois que vous avez même écrit, vous lisez les actes des apôtres en grec, c'est ça ?
Ah ben, quand j'étais au lycée, l'aumônier réunissait ceux qui faisaient du grec et on lisait les actes des apôtres en grec. Il y avait une librairie rue Bonaparte où on pouvait les acheter, c'était je crois la seule en France. Et c'était un exercice intéressant et puis ça forme la pensée parce que... Ça permet de voir comment d'autres ont pensé avant vous, et dans leur langue, c'est pas la même chose que traduit. Et puis, je me souviens, dans les traductions de grec que j'avais fait, il y en a une qui m'a frappé, auquel je pense, je dirais pas tous les jours, mais encore très souvent, c'est quand Socrate était en prison. C'est Platon qui raconte ça, ses amis ont été le voir, et lui ont dit, mais il y a la porte qui est ouverte, on peut s'en aller. Et Socrate a dit non, parce que si je faisais ça, les lois d'Athènes se dresseraient devant moi. Et je pense que c'est important de comprendre que les lois de la cité, c'est des monuments qu'il ne faut pas jouer avec et qu'il faut les respecter, sinon on vient à la barbarie.
Vous avez perçu ce qu'on appelle indûment les langues mortes, parce que ce sont des langues anciennes,
oui.
tout simplement. Vous l'avez perçu comme étant d'un apport, je dirais, intellectuel qui vous permettait de synthétiser votre pensée, qui permettait de mieux formuler les choses de manière plus dense, plus concise, plus précise, ou ça on le perçoit à la longue ?
Bon, je dirais qu'on le perçoit à la longue, mais j'ai eu la chance d'avoir en seconde un professeur de lettres qui faisait français, latin et grec, et qui en même temps enseignait de l'autre côté de la rue à la Sorbonne, Monsieur Goube. Et la première séance de l'année, il nous a dit, on va parler d'un pourquoi on apprend ces langues anciennes. Et il nous a éclairé, je trouve que c'était intéressant, parce que mes autres professeurs ne nous avaient jamais parlé de ça.
Et que vous a-t-il dit ?
Ben, il nous a dit que ça aidait à avoir sa propre pensée, parce que ça permettait de bien se pénétrer de celle des autres, de faire des choix, de les comprendre et de choisir pour soi.
L'Académie française, dans une déclaration du 6 avril 2000, s'est indignée du fait que les langues anciennes et également les filières littéraires soient aujourd'hui sinistrées, mais délibérément sinistrées par les penseurs de l'éducation nationale. Est-ce une chose que vous constatez, dont vous constatez les effets dans votre vie professionnelle ?
Ah ben je sais que professionnellement, à la fois dans l'expression écrite et orale, je m'apercevais, je posais pas toujours la question, mais je m'apercevais que les gens qui avaient fait du latin avaient une pensée plus claire, plus concise, plus précise, et pas quelques mots vagues qu'on répète gentiment parce qu'ils sont à la mode.
Le sens du discernement, quelque sorte.
Oui, et puis de la précision. Et je pense que quand on fait des exercices de traduction, pour les langues anciennes comme pour les langues vivantes, on est amené à se pencher sur la précision de ce que veut dire chaque mot par rapport à un autre. Et surtout quand la traduction qu'on fait va être imprimée, on se dit il faut vraiment être très précis. Et c'est un exercice qui vous aide à savoir ce que vous pensez vous-même exactement.
Alors vous l'écrivez vous-même, après 12 000 interviews de responsables d'entreprise en 20 ans, je pense pouvoir exposer que les études et formations littéraires peuvent produire de la bonne graine d'entrepreneurs.
Oui, parce que, enfin d'entrepreneurs, de gens qui dirigent des entreprises ou qui dirigent d'autres gens, quand ils dirigent, ils en sont responsables, à l'intérieur d'une entreprise. Chacun a son histoire, son milieu social, sa région d'origine, etc. Et pour dire la même chose à tous les gens d'une entreprise, que ce soit l'informaticien, le commercial, l'ingénieur de recherche, le monsieur qui fait les comptes, le comptable, et c'est pas la même chose que le directeur financier. Pour leur dire la même chose, il faut utiliser des mots qui pour eux veulent dire la même chose, c'est-à-dire que souvent c'est des mots différents. Ça n'est pas du jésuitisme de vouloir flatter les gens, mais c'est pour être bien compris. Il faut utiliser des mots qui ont une signification et un contenu affectif similaire pour que le message passe bien. Et là, les formations littéraires donnent un avantage puisqu'elles vous ont fait travailler ces nuances, ces sujets et ces précisions.
Vous avez des exemples tirés de votre expérience, des rencontres que vous avez pu faire ? C'est une constante que vous observez ?
C'est-à-dire que j'ai constaté quand même, quand je suis appelé par des numéro 1 d'une entreprise qui m'explique le besoin qu'ils ont, en général c'est beaucoup plus limpide que les techniciens à l'intérieur de la pyramide qui se gargarisent un peu de mots standards, à la mode, etc. Aujourd'hui, le mot le plus galvaudé, c'est stratégie. Plus les gens sont médiocres, plus ils parlent de stratégie.
Une sorte de jargon de prestige, pour reprendre l'expression de Jean
Je pense que ça passera, il y en aura un autre jour, mais pour le moment, il y en a qui le mettent 10 fois dans la même page. Hein.
Oui, il y a tout un jargon du communicant.
Oui. Alors, il y a une autre adaptation que les gens doivent faire quand ils pénètrent dans la vie professionnelle, c'est que ça ne fonctionne pas de la même manière que le monde académique, là où on a fait ses études. Et c'est pour ça que je pense que les stages ont une grande importance et influence, parce que tout en faisant ses études, on est confronté et en contact avec des gens pour lesquels l'expression est différente, l'organisation est différente, les hiérarchies sont différentes. Et on les comprend, et si on a fait de l'histoire, on comprend ce que c'est que les fortes individualités qui en influencent d'autres, ce que c'est que les gens écrasés par leur mère. On apprend beaucoup de choses à l'histoire, les rivalités, les individus dans les groupes, les rivalités entre les groupes, les guerres, les paix.
Tout cela, vous devez l'avoir à l'esprit lorsque vous recevez une personne, lorsque vous traitez avec une entreprise, essayer de d'avoir une vision d'ensemble.
Quand on l'a intégré, ça devient une manière de penser, de parler, etc. Mais je crois que ça permet, quand on sent qu'il y a une ambiguïté ou un problème, et souvent les ambiguïtés créent de la difficulté ou des souffrances, c'est de faire bien préciser les choses. Et souvent, les relations hiérarchiques à l'intérieur d'une entreprise, ce sont des choses difficiles parce que il y a un vieux monsieur qui est dépassé par les événements, soit parce que son domaine a évolué, soit parce qu'il est atteint par l'âge. Et alors, on veut quand même lui donner le titre, mais on lui dit c'est pas lui le patron ou le responsable. Et il est important de faire préciser avec des mots clairs ce qu'est la réalité.
Ça vous dit d'ailleurs, ça figure dans vos...
Sinon, on arrive à des conflits larvés.
Voilà, vous le dites dans les 8 conseils hein, que vous prodiguez, sur lesquels d'ailleurs nous allons venir. Tout noter, tout confirmer par écrit, apprenez à travailler professionnellement, soignez les détails et même à réordonner vos priorités à tout moment. Vous dites que pour éviter les conflits, il faut que les choses soient extrêmement claires et il faut s'entendre sur les mots.
Oui, et j'ai eu, quand j'étais étudiant aux États-Unis, un professeur qui de temps en temps faisait des déclarations. Et un jour, il a dit, c'était aux États-Unis, donc c'était en anglais, il a dit « Rule number one, get it in writing ». Ça veut dire « règle numéro un, faites-le écrire ». Parce que quelqu'un de très bonne foi, que ce soit un supérieur, un collègue, un client, un fournisseur, il vous promet quelque chose, et puis les circonstances, l'environnement changeant, son patron changeant, les produits qu'il a à vendre changeant,
oubliant,
trois ans après, il peut de bonne foi dire « mais moi je vous ai jamais promis ça ». Alors que si c'est sur papier, et si c'est pas le genre à vous l'écrire, eh bien vous lui faites une petite note de confirmation. Ceci a pour objectif de vous confirmer notre conversation d'hier. Et vous mettez écrit et signé.
Ça, vous le conseillez systématiquement ?
Quand c'est important, oui, parce que ça évite que, je vous dis, 2 ou 3 ans après, on dise, moi, j'ai jamais dit ça. Et en étant de bonne foi, c'est pas des gangsters, mais la vie évolue, change, et donc il faut savoir solidifier. Je dis pas de graver dans le marbre, mais de mettre par écrit, c'est pas mal.
On marque une première pause.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Éclairage s'intéresse aux filières littéraires, secret de la réussite. Alors ce n'est pas un a priori des académiciens qui en quelque sorte défendraient ici même leur institution. Non, c'est la vie de personnes inscrites dans la vie professionnelle, en particulier Daniel Jouve qui est notre invité pour en parler dans cette émission. Ancien élève du lycée Louis le Grand, conseiller en recrutement de cadres dirigeants, chasseur de tête, dirions-nous, et spécialiste du gouvernement d'entreprise qui a réalisé 12 000 interviews de responsables d'entreprise en 20 ans. Et qui ainsi se prononce sur le fait que la capacité d'expression aussi, puisqu'on parlait à l'instant des conflits, le fait de tout écrire, la capacité d'expression, vous nous l'avez dit, est l'arme absolue de l'entrepreneur, ou du moins un atout exigé, pour pouvoir s'adresser à toutes les strates de l'entreprise. Chacune parle son propre langage, il faut pouvoir s'adresser à elle de manière différente. Alors, Daniel Jouve, Alexis Tocqueville disait que pour un État, pour la paix civile, il était très dangereux en fait d'enseigner les matières littéraires, parce que les littéraires étaient en quelque sorte des subversifs, et qu'il valait mieux enseigner le commerce, les mathématiques, des matières peu dangereuses. Partagez-vous ce point de vue. Les littéraires en entreprise s'adaptent peut-être plus facilement, mais sont-ils aussi peut-être plus individualistes, plus difficiles à manipuler, à manœuvrer?
Oui, ils sont plus libres d'esprit, puisqu'ils ont vu beaucoup de choses, ils ont été confrontés à des pensées différentes, d'auteurs différents. Et puis, il y a une chose très importante, c'est la connaissance et la pratique de plusieurs langues. Bien entendu, c'est une supériorité de bien manier la langue française, de savoir utiliser ses nuances et ses précisions. Mais derrière chaque langue, il y a un peuple, une histoire, une pensée. Et quand on peut regarder la même réalité sous des angles différents à travers les langues, c'est enrichissant. Alors moi, je n'en connais qu'une en dehors du français, c'est la langue anglaise.
Pas que vous parlez couramment, vous écrivez oui. même en anglais.
Oui. Mais je crois qu'il y a une chose grave en France, c'est le peu de gens qui apprennent l'allemand, puisque c'est quand même une langue derrière laquelle il y a une pensée formidable, des auteurs, des philosophes, des écrivains, des tas de gens de première qualité. Quand je dis ça, on me répond « Ah oui, mais tous les Allemands parlent anglais ». Mais c'est pas une raison. Comme c'est le premier client et le premier fournisseur de la France, quand on a quelque chose à vendre et qu'on parle au client dans sa propre langue, ça passe beaucoup mieux.
Vous avez reçu une fois un CV d'une personne extrêmement diplômée et qui avait cet atout de parler allemand aussi.
Oui. Alors, il était très surpris parce que il était premier dans une école d'ingénieurs, dans une école de commerce et tout. Et je lui ai dit, la chose la plus importante dans votre CV, c'est que vous pratiquez l'allemand quotidiennement comme une langue maternelle. Et quand on cherche des gens comme ça en France, on en trouve très très peu. Il y en a vraiment pas beaucoup et c'est dommage. Alors, je crois que c'est vrai que quand on est au lycée et qu'on apprend une langue étrangère, c'est plus difficile d'apprendre l'allemand que l'anglais. Ça demande un effort plus grand.
Et au
donc,
départ.
Oui, je crois que la solution, c'est de donner un meilleur coefficient aux gens qui apprennent l'allemand. Il faut les pousser dans le bon sens. Les récompenser.
C'est un paradoxe à l'ère de la mondialisation d'imaginer que les Français, enfin de constater que les Français apprennent moins la langue de leur premier partenaire commercial qu'avant.
Oui.
Puisque c'est l'enseignement de l'allemand en France est en recul et l'enseignement du français en Allemagne est aussi en recul.
Oui. Alors c'est très bien qu'il y ait aussi des jeunes générations qui apprennent le chinois et qui apprennent le japonais, ce qui n'est pas facile. Mais je pense que l'allemand, c'est quelque chose sur lequel il faudrait faire un effort important et rapide.
Quel intérêt voyez-vous à l'apprentissage de l'allemand quand vous envoyez un cadre en Allemagne ?
Comme je vous disais, je crois que d'abord, celui dont on parle la langue est flatté. Moi, quand un Américain me parle en français impeccable, je suis impressionné et favorablement disposé. Donc il y a un aspect, je dirais, commercial ou de facilitation des relations. Et puis, il y a un aspect d'efficacité, qu'il n'y ait pas de malentendus, des traductions rapides, verbales, mal comprises. Et puis, il y a des concepts qui sont différents dans une langue ou dans une autre, et ça enrichit de les connaître et puis de les comparer. Je crois que c'est un enrichissement.
Quand vous parlez de... Je reviens un peu aux critères que nous avons retenus pour cette émission, secret de la réussite, les littéraires. Quand vous parlez de littéraire, vous avez une vision large. Ça concerne la formation avant le bac, après le bac. Quels sont les critères que vous retiendrez sur un CV pour dire que c'est un littéraire? Il faut avoir fait normal sup?
Non, pas nécessairement, mais je pense que je mets dans les disciplines littéraires, je pense que c'est une chose assez claire, l'apprentissage des langues et d'abord de la langue française.
Donc de toutes les langues et du français, on est littéraire. Donc quand on apprend l'allemand, on est littéraire.
Plus l'histoire, qui à mon avis est très importante pour...
vous allez nous en dire un mot
pour
d'ailleurs.
Pour vivre sa vie. La philosophie, je pense que l'histoire éclaire beaucoup sur la nature humaine et quand on vit en société, qu'on a une vie professionnelle, on rencontre tous les jours des êtres humains qui sont différents de vous et ça aide à les comprendre.
Mais vous devez être extrêmement embarrassé aujourd'hui parce que vu l'évolution des choses, on enseigne, ne nous le cachons pas, de moins en moins l'histoire ou du moins l'histoire chronologique. Les langues sont plutôt sacrifiées, vous avez parlé de l'allemand à l'instant. Tout est orienté plutôt sur les mathématiques, le commerce, l'économie. Très peu les matières que vous jugez importantes.
Je pense qu'un de ces jours, on va se réveiller et s'apercevoir qu'on est dans une impasse. On rate des opportunités, puis on verra peut-être qu'il y a certains individus qui se débrouillent mieux que d'autres, qui ont des résultats plus brillants, et on se dira pourquoi, et puis on cherchera,
Mais comment expliquez-vous que le système parie sur les mathématiciens, sur les filières mathématiques ?
Je crois qu'il y a une vieille tradition qui pense que quand on donne à quelqu'un un problème de mathématiques, il y a une solution et que la note, elle dépend de choses objectives, quel que soit l'individu. Et il y a des gens qui pensent qu'un devoir de français, la note que met le...
Subjectif.
C'est très subjectif. Il y en a peut-être une partie de subjectif, mais il y a des enseignants quand même qui, je crois, sont capables d'apprécier la qualité d'un devoir, même si ça défend des idées qui ne sont pas forcément les siennes.
Vous êtes pour le partage, on revient un peu à la première question que je vous posais en, au début de cette émission, le partage entre sciences dures et sciences molles?
Non, je crois que les deux ont de l'intérêt, mais comme les disciplines littéraires ont été repoussées dans la coulisse un peu trop, je pense qu'il faut faire un effort particulier. Mais bien entendu, si on veut construire des avions et des fusées, il faut être très fort en mathématiques, en physique, en chimie. Je ne crache pas dessus. Hein. Mais dans la vie d'une entreprise, d'une collectivité humaine, la communication se fait par la langue et les langues. Et je pense que si on est meilleur, on peut faire progresser l'intérêt général mieux.
Dans votre carrière, vos meilleurs recrutements sont littéraires?
Je ne dirais pas que c'est des littéraires purs. Mais
le petit plus, ça a été littéraire?
Alors ben, si vous voulez, moi, je recrute à un certain niveau, donc ce qui leur est arrivé parle pour eux. Mais j'aime bien leur faire parler de leur jeunesse, de leur famille, des évolutions qu'ils ont eues. De la même manière que d'une langue à l'autre, on s'adapte. Le monsieur qui a vécu dans plusieurs villes, peut-être dans plusieurs pays, dans plusieurs écoles, s'est enrichi, puisqu'il a, il a bénéficié de points de vue différents, d'habitudes différentes. Puis la vie en groupe, ça s'apprend aussi. Et si c'est pas la famille, il y a des mouvements de jeunesse, il y a des associations, etc. C'est des choses importantes pour juger de l'adaptabilité de quelqu'un à des circonstances très différentes, puisque par définition, on les fait changer de bocal.
Les enfants uniques en particulier, vous avez une certaine...
Ben, ils ont un peu...
méfiance.
Oui, alors, s'ils sont le centre du monde de tout un entourage de parents, de grands-parents, et qu'on leur dit tous les jours qu'ils sont formidables, ça risque de les déformer. Alors, comme je vous disais, il y a des contrepoisons qui sont les colonies de vacances, les patronages. Il y avait le service militaire qui était très efficace pour les garçons. Et je pense qu'au lieu de le supprimer pour les garçons, on aurait dû l'élargir aux femmes. Comme je vous disais, il y a aussi l'adaptation qu'on doit faire quand on change d'école, par exemple, ou de ville, parce que la famille, tout ça, ça conditionne l'individu.
Alors, je reprends un peu les conseils de carrière que, oui, que vous prodiguez. 8 conseils de carrière, hein, nous allons les commenter. Ne vous trompez pas de formation. La meilleure base est une formation littéraire. Vous le mettez en numéro 2. Et là, vous dites que la vie des entreprises n'est faite que de celle des individus et de ces groupes. Ce qu'on apprend plus par l'étude de l'histoire que par celle des seules sciences. Maîtrisez la langue. 3e point, le choix des mots est essentiel. Apprenez à travailler professionnellement. Nous en parlions tout à l'heure, tout noté, tout confirmé par écrit, du moins ce qu'il y a bien sûr d'important. Soyez un leader aux côtés de vos troupes, ça se vit au quotidien. Attention à votre étiquette de départ, visez la boîte qui fait référence dans la spécialité qui vous intéresse. Ayez un mentor, il faut pouvoir exposer à quelqu'un vos problèmes et vos choix, une sorte de père spirituel dans le domaine religieux, si on peut dire. Personne oui, à qui l'on peut parler.
De guide.
De guide.
De guide.
Ça, ça manque beaucoup, ça, hein.
Ah ben moi quand j'interviewe des gens, je leur fais raconter leur carrière, puisqu'en général ils ont déjà démarré pas mal d'années de vie professionnelle. La plupart des gens que j'interviewe, ils ont fait des études supérieures. Bon, ceux qui n'en ont pas fait ont encore plus de mérite d'arriver à des niveaux élevés, mais enfin souvent. Et puis ils rentrent dans une profession ou une entreprise, et puis ils progressent gentiment. Et puis il y en a tout d'un coup qui montent très très vite vers le sommet, et au point d'inflexion de la courbe, je leur dis « qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et la réponse est toujours la même. J'ai travaillé pour un type formidable, qui, à la fois par son exemple, et puis par son exigence, et puis par ce qu'il me disait comme conseil, ou comme reproche, ou comme critique, m'a fait progresser dans le bon sens. Et l'influence, elle est beaucoup par exemple aussi. Et je constate qu'il y a des gens qui ont cette vertu supplémentaire de leur propre efficacité personnelle, c'est de pouvoir influencer quelqu'un de la génération suivante et de l'aider à se développer complètement, à prendre des responsabilités, à progresser. C'est un charisme, c'est un talent. Je ne saurais pas vous dire d'où ça peut venir. Je pense que ça doit venir quand même pas mal des parents et de l'éducation. Mais il y a des gens qui sont des entraîneurs, comme ça, différents sens d'entraîneurs, c'est-à-dire qu'ils vous entraînent dans leur sillage et puis...
Ils vous font travailler.
Ils savent vous pousser à vos limites, c'est-à-dire c'est une responsabilité de donner à quelque chose à faire à quelqu'un qui n'a jamais fait, dont on pense que ça va aller, mais si ça marche pas, c'est vous, le supérieur qui l'avait décidé, qui trinquait. Mais c'est cette confiance et le fait que l'individu sente cette confiance, ça le mobilise. Il va travailler encore avec plus d'ardeur parce qu'il veut être à la hauteur de la confiance qu'on met en lui. Et ça motive l'être humain de manière formidable.
Les deux derniers points, montrez-vous adaptable. Ça, vous avez bien souligné cet aspect-là. L'adaptabilité s'acquiert par l'expérience du changement. Ayez un réseau et cultivez-le, bien sûr. C'est un effort permanent et attention, ça ne fonctionne pas à sens unique. Là aussi, c'est tout le relationnel qui est en jeu. On marque une deuxième pause avec vous, Daniel Jouve.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde. L'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Éclairage avec Daniel Jouve qui est chasseur de tête. Et nous parlons des filières littéraires, le secret de la réussite. Et Daniel Jouve sait de quoi il parle. 12 000 interviews de responsables d'entreprise en 20 ans, une expérience de chasseur de tête. Il est à la tête d'un cabinet de renom, Place Vendôme, spécialisé dans le recrutement de hauts cadres dirigeants. Et Daniel Jouve a insisté avec nous depuis le début de cette émission sur le fait qu'il fallait savoir bien sûr s'adapter, maîtriser plusieurs langues, savoir aussi acquérir une certaine capacité dans l'expression et que les littéraires étaient bien armés à première vue pour cela. Peut-être mieux que les hommes formés aux mathématiques et aux sciences dures. Bien que le système soit encore très favorable à celui qui forme des mathématiciens, hein, des hommes qui ne soient pas des littéraires. Qu'est-ce que vous suggérez, parce que vous avez quand même une idée, que pourrait faire l'Académie pour que les littéraires soient mieux connus et reconnus ?
Ah ben, je pense qu'on a la chance d'être à une époque avec des moyens de communication modernes super efficaces, de pouvoir mettre les jeunes, ceux qui sont en formation, qui apprennent, qui se forment, de les mettre en contact avec les brillantes cervelles et expériences qu'il peut y avoir à l'Institut. J'ai constaté aussi au fil des ans que plus les gens sont de niveau élevé dans un domaine, mieux ils savent l'expliquer. Et en termes simples et clairs. Et donc je pense qu'on devrait faire écouter aux enfants des écoles, non pas des films de Walt Disney, mais des causeries, pas très longues, entre une demi-heure et une heure, ou peut-être deux fois une demi-heure, d'éminents spécialistes d'un domaine qui expliquent ce qu'ils font, qui l'expliquent simplement, et qui font partager un peu leur enthousiasme et pour ce qu'ils font. Et je pense que ça serait une chance formidable d'être en contact avec ces esprits, d'y trouver des idées, des exemples, peut-être des vocations. Il y avait une époque où les étudiants qui voulaient être confrontés aux belles cervelles, ils allaient à pied de Salamanque à la Sorbonne, de la Sorbonne à Oxford. Il fallait faire ça à pied au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il suffirait de tourner un bouton et d'avoir le bénéfice de ces brillantes expressions, pensées, et je pense que ça coûterait pas bien cher d'organiser ça. Il germerait dans les cervelles de quelqu'un loin de l'émetteur une vocation, une idée. Il y a un côté magique à ça, on peut pas le planifier. Mais si on expose à ces expériences intéressantes un grand nombre de jeunes, et ben, il y en a qui bénéficieront de l'un puis de l'autre, etc.
Un lien entre générations, un lien entre les savoirs.
Ah oui.
C'est ce qui manque, hein, beaucoup.
C'est
beaucoup trop cloisonné.
C'est dommage de ne pas utiliser ces moyens de communication super performants, puisqu'on peut avoir non seulement la voix, mais la présence, les gestes, les attitudes d'expression qui marquent l'individu. On peut avoir ça au fin fond de la campagne pour écouter un monsieur qui parle quai de Conti.
Mais alors, il ne suffit pas de se rendre, bien sûr, auprès des personnes que l'on veut instruire. Il faut aussi éveiller aussi l'intérêt. Somme toute, il y a aussi un intérêt à faire germer. Vous pensez que si un académicien se déplace dans une classe, il suscitera un certain intérêt, mais ça doit s'inscrire aussi dans tout un contexte favorable.
Non, mais c'est pas nécessaire qu'il se déplace. S'il parle devant une machine qui l'enregistre...
Oui, par exemple, alors Canal Académie, en espèce, on pourrait tout à fait imaginer.
Mais je pense que plus les gens sont jeunes, et puis on est à un âge de l'image, plus il est important qu'ils voient la personne, pas seulement sa voix.
Plus il y a de technique, plus il y a besoin de contact humain.
Non, la technique peut miraculeusement mettre les jeunes générations en rapport avec des gens qui ont appris, qui ont de l'expérience et qui ont des choses à dire. Et c'est pas parce qu'on les écoute qu'on est obligé d'être d'accord avec eux, mais ça vous aide à réfléchir, à penser, à découvrir, à tout d'un coup dire « Ah, mais ça m'intéresse », et de le creuser ensuite. On a tous des gens qui un jour vous ont fait une remarque ou dit quelque chose.
Vous en avez, vous ?
Qui vous a marqué.
Qui vous a marqué ?
Oh ben, mes professeurs du secondaire m'ont beaucoup influencé. Je me rappelle moins l'enseignement primaire, sauf que à l'école primaire, on m'avait expliqué qu'il fallait pas tricher, c'est resté. Dans les domaines littéraires, j'ai ensuite lu beaucoup de livres parce qu'un jour, on m'en avait parlé et que des fois, c'est 20 ans après qu'on va lire ce livre.
Et vous avez lu des classiques à première vue ?
Je suis un passionné fanatique de Chateaubriand. Je pense que c'est une langue merveilleuse qui non seulement transmet des idées, mais donne du plaisir. Je reprends souvent les mémoires d'Outre-Tombe. On peut les ouvrir à la page qu'on veut. C'est toujours intéressant. Et je lisais l'autre jour la visite de Chateaubriand à Monsieur Washington, à Washington, et on le vit, il dit, voilà, il n'y avait pas de garde ni de valet à la porte, il y a une servante qui m'a ouvert, qui m'a montré un fauteuil où je me suis assis, puis le général est arrivé. On y est, parce qu'il sait manier les mots de telle manière que c'est une scène vivante et on est présent. C'est un talent fou et on a bien de la chance de l'avoir et c'est pas du tout du dogmatisme, mais je souhaite que beaucoup d'autres en bénéficient et y trouvent du plaisir.
Que diriez-vous, à la lumière de votre expérience, de cet attrait pour les lettres, les classiques, ce qui relève du littéraire, entre le moment où vous avez commencé votre carrière et aujourd'hui? Vous diriez que l'intérêt a nettement décru, qu'il s'est plutôt accru dans certains domaines et pas dans d'autres?
Moi, j'avais été élevé dans...
Dans les personnes que vous rencontrez, que vous recrutez.
Parce que quand on a passé plusieurs années de sa vie rue Saint-Jacques, et je suis touché quand je monte la rue Soufflot, que je vois une plaque qui dit que saint Thomas d'Aquin a enseigné ici. Et puis, il suffit de traverser la rue pour être à la Sorbonne, etc. On sent beaucoup de choses. Et puis, il y a le Collège de France à côté. C'est gratuit, on peut y aller. Ensuite, je suis rentré dans le monde professionnel où il y avait des tas de gens d'autres origines et ça m'a enrichi aussi, mais je leur souhaite d'avoir une expérience élargissante et enrichissante.
Mais vous diriez que les littéraires sont moins nombreux qu'avant, plus nombreux, que vous avez plus de mal à en recruter, que vous avez plus de mal à rechercher certains profils?
Il y en a moins, et comme je vous disais, je crois que c'est un peu de la faute des maires de France qui rêvent toutes que leur fils soit polytechnicien. Et puis en plus, qui s'y fait une autre école d'ingénieur polytechnique, lui foutent des complexes, parce qu'il n'a pas été à la meilleure école, etc.
Donc là, c'est culturel.
Oui, c'est dommage, et je pense que tout ce qu'on peut faire pour ouvrir l'esprit et des individus et de ceux qui décident pour eux au début de leur vie est salutaire.
Expliquez-nous un peu, parce que vous avez des liens très étroits avec les États-Unis, vous arrivez à mettre en vis-à-vis un peu les deux systèmes, les deux mentalités sur ce plan?
Oui, parce que...
L'importance de l'histoire et des littéraires, ici et là-bas? Difficile à dire?
Oui, mais c'est vrai que les Américains ne parlent pas la même langue que les Anglais, et que les Anglais les impressionnent parce qu'ils manient la langue anglaise avec plus de finesse, plus de raffinement, etc. Par contre, dans les choses d'efficacité de la vie quotidienne, etc., le jargon américain est super efficace. C'est des pragmatiques et quand on a fait des études intellectuelles et sophistiquées en France, d'être exposé au pragmatisme de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont un proverbe qui est le mot « kiss », ça ne veut pas dire « baiser », ça veut dire « keep it stupid simple ». Ça veut dire simplifier les choses et vous compliquez pas avec des tortures de l'esprit.
Mais alors là, je vous prends dans une sorte de paradoxe, parce que les États-Unis, première puissance du monde, louée pour leur efficacité, n'entrent pas, je dirais, dans le critère des pays particulièrement littéraires. Il y a bien sûr une littérature américaine, mais dans le pays qui met en valeur le raffinement, comme l'Angleterre, vous venez de le dire, et pourtant ils réussissent, ce qui signifie bien que ceux qui marchent dans le domaine professionnel ne sont pas forcément les littéraires. On n'a pas forcément besoin d'eux.
Non, mais chaque... peuple, chaque nation, chaque pays a toute une histoire et un passé. Alors, on ne peut pas faire aux uns ce qui est souhaitable pour les autres. Il y a des choses utile. Par exemple, je suis toujours frappé et presque scandalisé quand je vois des Américains qui ont fait des études très avancées et qui connaissent pas l'histoire des États-Unis et qui connaissent mieux l'histoire de l'Europe. Ça me scandalise. Personne n'est parfait, hein, mais je pense que ils compensent d'une manière en faisant venir dans leurs universités beaucoup de professeurs et d'intellectuels d'Europe.
Il y a un attrait des Américains pour une forme d'esprit européen, d'esprit français aussi.
Ah bah oui, il y a beaucoup de professeurs.
Pour les idées.
Ouais. Ils ont conservé des choses qu'on avait dans les universités médiévales. Par exemple, à l'université d'Harvard, il y a une école de théologie, alors qu'en France, il n'y en a plus. Ils ont une institution qui est... qu'on a une chaire quand on a fait ses preuves et... Une fois qu'on est titulaire d'une chaire, on dit vraiment ce qu'on pense. Il n'y a pas de politiquement correct.
Pourtant, on dit que le mot vient de là-bas.
Bah, peut-être, mais au moins les professeurs, du haut de leur chaire, ils disent ce qu'ils pensent et c'est enrichissant.
Vous gardez de votre expérience aux États-Unis par rapport à celle que vous avez suivie en France. Quelle différence, quel point de similitude ?
C'est très différent, mais ça enrichit d'avoir les deux.
Oui, bien sûr.
Parce que je crois que c'est très complémentaire et que quand les gens me disent « mais moi je vais faire une business school en France ou en Europe et maintenant n'importe quelle école à Paris donne des MBA », je rigole et je dis « on n'apprend pas la cuisine à New York et on n'apprend pas le business en France ».
Ça reste
l'apanage des États-Unis. Il vaut mieux aller à Jérusalem pour... trouver les sources de la religion.
Directement.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens bien de ce côté-ci de l'Atlantique, mais il faut aller savoir apprendre à la source.
On marque une troisième pause.
Canal Académie.
Éclairage s'intéresse aux filières littéraires. Filière littéraire, le secret de la réussite. Ce n'est pas un académicien qui s'exprime ainsi, mais Daniel Jouve, qui dirige un cabinet de chasseurs de tête à Paris, place Vendôme, cabinet réputé spécialisé dans le gouvernement d'entreprise et le recrutement de hauts cadres dirigeants. Donc on a beaucoup insisté en fait sur la maîtrise de plusieurs langues, la nécessité de devoir s'adapter, la nécessité de voir du pays, tout simplement, les États-Unis, la France. Vous avez proposé aux académiciens qu'ils mettent leur savoir à disposition de ceux auprès desquels ils pourraient susciter des vocations, l'échange des savoirs, le lien entre les générations, tout cela vous passionne, Daniel Jouve. Vous remettez chaque année un prix, le prix des autodidactes. Alors c'est un petit peu curieux quand on voit votre parcours, puisque vous avez fait Sciences Po, MBA, licence de droit, premier prix de mathématiques et de français à Louis-le-Grand. Vous récompensez des autodidactes qui, par définition, ne sont pas passés par les arcanes des grandes écoles. Et vous-même, vous avez refusé de faire l'ENA. Un mot que vous avez dénoncé tout à l'heure, le mot stratégie, précisément. Plus on l'emploie, ça veut dire que moins on a de choses à mettre dessus.
Bon,
est-ce
chacun,
que vous avez suivi une ligne particulière?
Chacun, je n'ai pas refusé de faire l'ENA. On me l'avait suggéré comme une possibilité, mais...
Vous avez dit que ce n'était pas intéressant pour vous.
J'avais envie d'aller dans un horizon plus ouvert et moins d'étapes prévues d'avance, etc. Bon, il y a des gens qui aiment ça, mais chacun son goût. Bon, j'étais président d'un club que nous avons à Paris, des anciens d'Harvard Business School. Il y a un millier de personnes, ça va de 25 à 80 ans. Et j'ai eu l'idée parce que j'en avais rencontré professionnellement, pas un très grand nombre, mais j'avais rencontré des gens qui avaient réussi à avoir des responsabilités importantes, alors qu'ils n'avaient pas fait d'études supérieures et quelquefois, ils n'avaient même pas terminé leurs études secondaires, ils n'avaient pas le bac. Et il y en a qui prennent des responsabilités, alors il y en a qui le font en créant leur entreprise, mais il y en a aussi qu'ils font en progressant à l'intérieur d'une entreprise où il y a plein de diplômés. Je crois que leurs mérites sont encore plus grands. Parmi les prix que nous avons remis l'autre jour, il y en avait un qui avait commencé comme ouvrier tourneur, tout seul, et qui aujourd'hui dirige une entreprise de 2000 personnes, qui fabrique notamment des wagons de tramway, de chemin de fer, des engins de transport d'automobiles, etc. Écoutez, c'est formidable, et il n'y a pas de décoration pour ces gens-là, il n'y a pas de cérémonie où on leur dise « c'est bien ce que vous avez fait », il n'y a pas de remise des prix comme il y en a dans d'autres institutions. Donc j'ai pensé que, étant donné la religion du diplôme qu'il y avait en France, ça serait mieux apprécié, mieux remarqué, mieux joué si c'était des gens qui avaient des brillants diplômes qui remettaient ces prix. Et puis il y a des gens qui, sans diplôme et sans formation, progressent à l'intérieur de grandes organisations. On a primé un monsieur qui était au comité de direction d'une des plus grandes banques françaises et qui n'avait pas le bac. Quand on a créé le prix, on m'avait signalé un exemple similaire. On avait demandé au monsieur de remplir une petite fiche d'information pour le connaître, parce qu'on pensait que c'était extraordinaire d'être arrivé à un niveau pareil alors que sans avoir fait d'études. Et comme il n'avait pas renvoyé la fiche, je l'ai appelé au téléphone et il m'a dit « Mais monsieur Jouve, étant donné le poste que j'ai, tout le monde croit que je suis inspecteur des finances, alors je vois pas pourquoi j'irais parader avec les autodidactes. » Et j'ai même eu des camarades qui m'ont dit « Autodidacte, tu trouves pas que c'est un peu méprisant comme terme, c'est pas très chic. » Mais moi j'admire ces gens-là et je pense que c'est important que la collectivité nationale leur dise que c'est bien. Et puis ça aussi, ça, de donner un prix, d'avoir une cérémonie, ça peut faire naître des vocations et donner de la confiance à des gens des jeunes générations qui, pour une raison ou pour une autre, et on est très conditionné par sa famille. C'est vrai que de faire des études avancées quand on a des parents et une famille où personne n'a jamais fait ça, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas de guide, personne ne vous tient la main, personne ne vous pousse. Donc si on peut montrer des exemples et faire naître des vocations, tant mieux.
Auprès des personnes aussi qui pensent que la réussite est liée par les études supérieures et les grandes écoles. Vous montrez que la réussite n'est pas forcément liée au passage dans ce type d'institution.
Ce qui m'a beaucoup frappé et touché, c'est que ces différents autodidactes responsables de haut niveau et primés, quand on leur a demandé de parler un petit peu de leur expérience, ils ont parlé surtout de leur rapport avec les gens qui travaillent avec eux, les rapports humains et les messages qu'on fait passer. Et puis, c'est des gens qui savent que quand on demande aux gens de faire 20 km à pied, il vaut mieux pas les suivre en voiture, faut les faire avec eux. Et ils sont crédibles parce qu'ils ont commencé à cheminer à pied eux-mêmes.
Alors, la force de l'exemple, que vous avez dit tout à l'heure.
Ah, c'est
pour faire progresser les autres, il faut être un exemple.
Très, très important.
Des pragmatiques, on a envie de dire obligatoirement. Puisque
Il y avait le président d'une grande entreprise française qui, quand il a été nommé président, a vu au siège, il y avait un parking devant le siège social et il y avait des noms peints à la peinture blanche à chaque case de parking pour dire « ça c'est la place de monsieur un tel ». Et il a fait tout effacer et il a dit « la place la plus près de la porte que tout le monde voulait avoir, c'est pour celui qui arrive le plus tôt le matin ». La valeur de l'exemple.
Valeur de l'exemple. Et du coup, on a la suite de l'histoire. Tout le monde s'est battu pour avoir la place.
Non, ils ont eu leur place dans l'ordre auquel ils
arrivaient. Dans l'ordre d'arrivée, tout simplement. C'est presque évangélique comme précepte. Hein. Mais alors là, avec les prix remis aux autodidactes, on n'est pas dans le cadre de filières littéraires particulièrement. Où ils ont un point commun avec les littéraires?
Non, pas nécessairement. En général,
ils ont gardé un bon souvenir de l'école ou plutôt un mauvais?
Ils n'en ont pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas été très longtemps. Mais vous parliez de quelque chose de religieux. Je crois que nous sommes un pays de tradition catholique, et moi je suis catholique, mais où on se méfie de l'argent et de la réussite. Alors que ça, c'est une grande différence avec les États-Unis, où il y a une dominante protestante, même s'il y a beaucoup de catholiques, où c'est presque une prédestination, un signe de prédestination de réussir et de gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, le système et les lois veulent que on ne gagne beaucoup d'argent que si on rend service à la collectivité. Si on détourne, par exemple, par le monopole, on est sanctionné.
Ça vous paraît plus juste ?
Ça me paraît dommage qu'on se méfie et qu'on fasse la grimace aux gens qui ont réussi et qui ont, en réussissant, gagné de l'argent. peut avoir des réussites qui ne consistent pas à gagner de l'argent, mais et ça, c'est notre ami saint Thomas d'Aquin au quartier latin. Hein.
Ça remonte à lui.
Ça vient de lui, oui.
Oui. Bien, bah écoutez, Daniel Jouve, merci beaucoup. J'aurais envie de dire, si vous étiez en contact avec des jeunes devant, je ne sais pas moi, une classe d'école, que leur diriez-vous pour leur orientation, pour leur... en guise de conseil? Voilà, ils ne sont pas encore dans la vie professionnelle, mais ils vont y entrer. On sait à quel point l'orientation scolaire en France laisse à désirer.
Eh bien,
conseil du chasseur de tête.
Moi, j'ai eu un conseil quand j'étais jeune et débutant, et c'était un vieux monsieur qui, lui, était en fin de carrière et qui avait surveillé et organisé les carrières de milliers de gens, qui était l'homme des ressources humaines de la General Motors, à Détroit, ville créée par un Français, et monsieur de la Botte Cadillac. Et il nous a dit « Be yourself and love yourself ». Soyez vous-même et aimez-vous. Et il faut pas avoir peur de dire moi j'aime ça, j'ai envie de faire ça, et si votre père est haut fonctionnaire, de dire j'ai envie de faire de la poterie.
La passion d'abord.
Je rêve d'être un compagnon du Tour de France, hein, le meilleur tailleur de pierre de l'Île-de-France. Ça, c'est en général, dans les belles familles, ça passe pas bien. Hein. Soyez vous-même et soyez content et aimez-vous comme vous êtes.
Et pour ces jeunes, qui sont certainement ceux qui constituent la majorité, ceux qui ne savent pas vraiment quoi faire, comment susciter une vocation?
Il faut aller voir. Alors, ça peut s'appeler des stages, mais ça peut aussi visiter des salons professionnels. Il y a des gens qui sont là, qui font des métiers différents, qui vous attendent et qui, des fois, s'ennuient un peu. Vous leur dites qu'est-ce que vous faites, comment vous avez commencé, etc. Les gens aiment bien parler. Les gens ont besoin de parler d'eux-mêmes et ils sont un peu bloqués, donc si vous les interrogez un peu, ça vient. Alors, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour faire parler. Mais, en général, ils deviennent animateurs d'émissions. Les plus doués.
Merci beaucoup, Daniel Jouve, pour tous vos conseils, pour votre éclairage aussi sur, naturellement, ces filières littéraires, l'importance des filières littéraires, soulignées à de nombreuses reprises par l'Académie française, et vous apportez ce regard croisé venu de l'entreprise, du monde de la vie économique, pour dire que eh bien, les filières littéraires, il ne faut pas, bien sûr, les négliger. Et vous donnez ce conseil aussi aux académiciens, eh bien, pourquoi pas se mettre beaucoup plus à la portée de ceux chez lesquels on pourrait susciter des vocations. Et c'est sur ce dernier mot que nous nous quittons, Daniel Jouve. Merci.
Merci.